Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques semaines de ça, on se posait la question de la place de la santé mentale dans le monde du divertissement. En gros, de la façon que nous avons de regarder, avec un mélange de fausse compassion et de curiosité malsaine, les moments où les célébrités semblent perdre pied. Des moments désormais documentés, voire carrément retransmis en direct, parfois par les premiers concernés, parfois par leur entourage. On pense évidemment à Kanye West et ses tweets frénétiques, à Britney Spears, source de bon nombre d'interrogations, ou encore plus récemment à l'acteur Armie Hammer, embarqué dans une drôle d'histoire d'accusation de cannibalisme doublée d'un étalage peu ragoûtant de sa vie privée et de ses démêlé avec tout un tas de substances, le tout sur fond de divorce et de garde d'enfants. Ça nous a donné envie de vous faire réentendre ce que l'on disait en octobre dernier de ce sujet qui n'est visiblement pas prêt de disparaître. Bienvenue dans Programme B. Pour causer de ce choc entre des personnalités excessivement publiques et des souffrances a priori excessivement privées, intimes, j'avais passé un coup de fil au psychiatre Jean-Victor Blanc, médecin à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et auteur de l'excellent livre Pop et Psy chez Plomb. Pour commencer, je lui avais demandé quel rôle nous, le public, avons à jouer lorsque nous nous trouvons confrontés à des stars ou des personnalités dévoilant parfois très brutalement leurs moments de souffrance mentale.
Finalement, je pense que le regard qu'on porte sur le... une célébrité, un personnage public qui va mal. Effectivement, en ce moment, c'est beaucoup centralisé autour de Kanye West. Auparavant, ça a pu être Britney Spears ou Whitney Houston, Amy Winehouse, dans les exemples peut-être les plus marquants et récents. Finalement, le regard qu'on porte là-dessus, c'est un peu le regard que la société porte sur la maladie mentale. On va avoir un courant, alors que moi je défends, mais qui malheureusement est un peu minoritaire, qui va être celui de essayer d'avoir de l'empathie, essayer de montrer une compréhension de ces enjeux, essayer de pas monter la souffrance en gagne-pain ni en bête de foire. L'autre type de regard qu'on peut porter sur la chose, ça va être malheureusement un regard extrêmement stigmatisant où on va aller de la moquerie à carrément des phénomènes de rejet. Quelqu'un qui va mal, alors ça a été c'est abondamment commenté effectivement par exemple sur Twitter en ce moment par rapport à Kanye West suite à son meeting. Everybody that has a baby gets $1 million and it is a 132 IQ genius that literally went to the hospital because his brain was too big for his skull. Où finalement, on le voyait comme dans un état de détresse manifeste et la plupart des réactions étaient de l'ordre de la moquerie.
Kanye West en larmes, qui hurle évidemment, comme tout ce que fait Kanye West, et ben le discours fait la une des réseaux sociaux cette nuit.
Avec un regard extrêmement dur, extrêmement compliqué, extrêmement violent, qui ne prend pas du tout en compte justement la santé mentale. L'autre regard, de type de regard et qu'il rejoint un peu, ça va être autour d'une fascination. Ça, pour le coup, on avait l'exemple de Amy Winehouse, où finalement, on avait l'impression que cette espèce de imaginaire autour de la souffrance, du mal-être, avait un peu happé finalement notre société, une large partie des médias, où en fait on voyait juste quelqu'un qui allait très mal et on trouvait ça cool ou rock'n'roll ou on lui faisait porter peut-être un discours, une idéologie libertaire qui, je pense, si elle le portait, en tout cas, elle en est quand même décédée à 27 ans, ce qui est, en tant que médecin, manifestement quelque chose de dramatique.
Il y a une question que moi je me pose, et c'est un peu la question de l'œuf ou la poule, hein, vous allez voir. C'est en gros, est-ce que la détresse mentale est liée à la grande exposition? Est-ce qu'elle peut être en partie liée à la très grande exposition que vivent ces gens, notamment via les réseaux sociaux? Ou est-ce que la très grande exposition, le besoin de célébrité, le besoin de beaucoup s'exposer, est lié à la détresse mentale? Lequel précède l'autre.
Alors, je vais vous faire une réponse de psychiatre en vous disant que c'est un peu les deux et que les choses sont jamais caricaturales ni dichotomiques. Ce qui est sûr, c'est que la maladie mentale, c'est quelque chose de fréquent, de peut-être plus fréquent que ce qu'on avait l'habitude de croire. On sait que c'est une personne entre une personne sur 4 et une personne sur 5 qui va être concernée au cours de sa vie. Donc forcément, à travers toutes les célébrités, on retrouve des personnes qui parlent de leur santé mentale, qui ont des troubles psychiques, puisque c'est quelque chose de fréquent. On sait aussi que certaines professions artistiques attirent certaines personnes qui ont des fragilités. On sait aussi que le facteur de stress que peut représenter la célébrité et aussi le rythme auquel sont soumis un certain nombre de ces célébrités. Et là, je pense particulièrement, par exemple, au monde de la musique, avec les enjeux autour des tournées, etc.
I never took a break. I never learned how to just put myself before my career. I just didn't. I just started making records basically right out of high school and never stopped.
On sait que tout ça, finalement, ça dégrade la santé mentale et donc ça augmente le risque, finalement, qu'il y ait cette visibilité. Après, que finalement, aujourd'hui, les célébrités et les personnages publics parlent de leur santé mentale, il y a là aussi probablement deux facteurs. Le premier, c'est que finalement, les célébrités, il y a une levée du tabou, on parle de plus en plus de la santé mentale, donc on a aussi plus de prise de parole de personnages publics. L'autre élément est probablement aller chercher du côté des réseaux sociaux, puisque par rapport à avant, où les communications étaient quand même extrêmement verrouillées, quelqu'un comme Britney Spears ou même si on prend la génération d'avant, des Michael Jackson, Whitney Houston, George Michael, Prince, bon, qui tous ont eu des gros problèmes de santé mentale, on sont tous décédés à des âges assez jeunes, finalement n'avaient jamais eu l'occasion de porter cette parole-là dans l'espace public aussi, puisque clairement ça faisait peur et qu'il n'y avait pas ce lien direct que les personnages publics peuvent avoir aujourd'hui vis-à-vis de leurs fans et des gens qui les suivent.
Est-ce qu'on peut voir aussi malheureusement pour eux, pour elles et eux, pour ces personnes qui souffrent et qui le montrent, un aspect positif qui serait qu'elles se transforment en porte-parole ou en tout cas en vulgarisateur de ce qu'est la réalité de la détresse mentale. Je pense à quelqu'un comme Mariah Carey, par exemple, qui a pu avoir plus ou moins ce rôle-là autour de la bipolarité, même si ça s'est un peu retourné contre elle.
Bien sûr, alors c'est ce qui est assez fascinant, c'est que les célébrités endossent un peu ce rôle. On n'a jamais autant parlé de troubles bipolaires, par exemple, au cours des 5 dernières années, que lorsque Mariah Carey a fait son coming out par rapport à son trouble bipolaire, et qui, pour le coup, était un coming out à un moment où elle allait bien, où elle en parlait de manière posée et où finalement elle le disait en disant voilà, j'en parle aujourd'hui parce que je vais bien, que j'ai trouvé l'aide psychologique, psychiatrique, médicamenteuse et que du coup je veux en parler pour alléger le stigma qui portait sur la maladie. Donc clairement ça c'est plutôt positif. Alors le deuxième moment dans lequel on a le plus parlé, c'est clairement cet été avec Kanye West qui là semble quand même une communication qui est moins contrôlée, à un moment où clairement il n'est pas là pour nous dire je vais bien pour le coup. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, l'effet finalement de rôle modèle que les célébrités peuvent avoir, et finalement, ils l'embrassent plus ou moins. Alors là-dessus, je vous encourage à regarder le spectacle de Carrie Fisher.
Now, oh, this will really, really impress you. I am in the abnormal psychology textbook. How cool is that? Now, keep in mind, I am a Pez dispenser and I'm in the abnormal psychology textbook. Who says you can't have it all?
Wistful Drinking, qui est extrêmement drôle. Elle parle justement de sa bipolarité. Elle parle de certains traitements qu'elle a eus, notamment les fameux électrochocs. Bon, le spectacle est extrêmement drôle. Et à un moment, elle dit que justement, de manière extrêmement ironique et ludique, elle a eu beaucoup plus de prix en tant que personne ayant des troubles psychiques et en ayant parlé, elle dit oui, j'ai eu l'award de Survivor du bipolaire, j'ai eu l'award de la lutte contre la santé mentale et elle dit que par contre, elle n'a jamais eu aucun prix en tant qu'actrice ni en tant qu'auteur puisqu'elle écrivait des livres également. Et donc, bon, elle était devenue un peu cette championne finalement de la prise de parole, un peu au détriment du reste de sa carrière artistique et en disant ça, bien sûr, avec énormément d'humour et de second degré, mais effectivement, c'est un des un des risques. Ceci dit, là aussi, les choses sont en train de changer et je trouve que les personnes sont de moins en moins assignées uniquement à la maladie mentale quand ils en parlent, et ça aussi, c'est quelque chose de positif.
Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'évoluer dans notre perception globale de ce qu'est une star qui, en grande partie, était supposée être quelqu'un qui n'allait pas bien, de toute façon. Et ça faisait partie, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur Amy Winehouse, ça faisait partie d'une espèce de folklore hérité du rock'n'roll, sans doute, de la star polytoxicomane complètement à l'ouest, et qui, de toute façon, vit une vie tellement dissolue qu'elle est dans une autre réalité. Là, on n'est pas dans le même discours quand on entend des gens comme Mariah Carey, et même, dans une certaine mesure, des gens comme Kanye West. La prise de position n'est pas la même, j'ai l'impression.
Effectivement, on sort quand même de cette fascination autour du mal-être, et ça, je trouve ça extrêmement positif, puisque, bien sûr, c'est des messages d'incitation à la drogue, etc., qui sont délétères, in fine, pour les personnes fragiles. Quand on voit que Lady Gaga consacre son dernier single à un médicament antipsychotique dont elle dit qu'il aide son cerveau à fonctionner et à créer, effectivement, c'est quand même des prises de parole qui sont, moi je trouve, extrêmement avant-gardistes et finalement extrêmement positives, extrêmement novatrices vis-à-vis des clichés un peu éculés du style « on ne peut pas créer sans être sous abus de substances », etc. Alors qu'on sait que finalement ça se retourne contre les personnes, plus ou moins artistes d'ailleurs.
De manière générale, c'est un des axes que vous développez dans le livre que vous avez signé sur le sujet. La pop culture a toujours été une forme de reflet de notre savoir sur la santé mentale. En tout cas, il y a toujours eu dans la pop culture, et notamment dans le cinéma, parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre livre, un regard sur la santé mentale.
Effectivement, la pop culture, et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil fascinant pour parler de la maladie mentale, elle s'empare finalement un peu de tous les grands mouvements qui traversent notre société, et elle arrive, je trouve, à représenter quand même une diversité, que ce soit du point de vue ethnique, du point de vue de l'orientation sexuelle, que ce soit vis-à-vis du handicap, et donc vis-à-vis également de la santé mentale. Et finalement, il y a quelque chose qui se potentialise entre à la fois un phénomène devient plus fréquent, donc on le retrouve dans la pop culture, et en même temps, on le retrouve dans la pop culture, et donc finalement, in fine, c'est plus facile d'en parler dans la société. C'est sûr que si on compare à ne serait-ce qu'il y a une petite dizaine d'années, des célébrités qui parlaient à visage découvert d'une maladie comme le trouble bipolaire, il y en avait extrêmement peu. Et quand elles le faisaient, c'était en général soit post-mortem, soit indépendamment de leur volonté. Bon, aujourd'hui, pour un vingtenaire ou quelqu'un de plus jeune, voir Selena Gomez parler de son lupus, mais aussi de son trouble bipolaire, en disant que finalement c'est une maladie comme les autres et qu'elle a fait le choix de se soigner, c'est sûr que ça envoie un message qui est extrêmement fort, puisque c'est ce qui est fascinant aussi avec la maladie mentale, c'est qu'à la fois c'est quelque chose qui peut inspirer de la crainte, qui en même temps reste quand même assez fascinant. Et effectivement, les films de Volo Tsunami de Coucou, pour citer un peu le film emblématique, on pourra en reparler, même s'il ne donne pas une image extrêmement positive, à la série Ratched qui vient de sortir sur Netflix, on voit vraiment qu'il y a une espèce de passion du 7e art pour la maladie mentale.
Mais est-ce que justement, là aussi, on n'assiste pas, et vous en parliez à l'instant, à une évolution de la perception, et où là où parfois la maladie mentale a pu être présentée uniquement sous l'angle de stéréotypes et de la folie et de tout ce qu'on connaît de clichés autour de ça, on arrive à une vision plus proche de la réalité, de ce qu'est la réalité de la santé mentale. Je pense à, par exemple, au succès d'une série comme In Treatment qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a 30 ans et qui, c'était maintenant il y a une dizaine d'années, a comme ça mis le nez dans ce qu'était le quotidien de la psychiatrie finalement.
Bien sûr, on sort des représentations quand même caricaturales. Alors bien sûr, même s'il y a forcément l'aspect fictionnel, et pour le coup la série Ratched que j'ai citée, bon, c'est finalement on repart quand même sur des clichés un peu anciens, mais globalement il y a quand même un désir d'être quand même dans des représentations qui sont plus réalistes. On l'a vu avec des séries comme Euphoria de HBO ou Mental qui est passé sur Slash, où vraiment l'équipe a fait des rencontres avec des équipes soignantes, avec des familles, avec des personnes atteintes. On voit bien que, comme sur d'autres sujets, aujourd'hui, quelqu'un qui va faire un film extrêmement sexiste ou raciste risque de se faire tomber dessus, ou en tout cas qu'on lui demande un peu quelle était sa philosophie ou comment il a approché le sujet, et ce que je trouve tout à fait normal. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une responsabilisation qui se fait un peu vis-à-vis de pas montrer n'importe quoi, ou en tout cas de savoir de quoi on parle. Après, encore une fois, pour le coup, je suis pas du tout dans une posture qui serait celle de la censure. Heureusement qu'on peut créer des œuvres et évidemment, même si elles sont loin de la réalité, ça reste des œuvres d'art. Vol au-dessus d'un coucou, c'est un film magnifique, c'est certain, il n'est pas question de l'interdire. Par contre, se dire qu'aujourd'hui, s'il était tourné, il y aurait peut-être un désir de montrer quelque chose d'un peu plus juste, de pas montrer que des cas désespérants ou des patients qui font semblant d'être malades ou des soignants qui sont sadiques. Je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de faire un peu bouger les lignes.
Est-ce que aussi la pop culture et le fait la présence de la maladie mentale et de la santé mentale de manière générale dans la pop culture sur les écrans grands ou petits peut avoir un effet cathartique aussi pour les gens qui souffrent dans le public et qui peuvent se reconnaître, comprendre, mettre des mots peut-être des mots que eux n'arrivent pas à trouver sur ce qu'ils ressentent ou entamer trouver le chemin qu'ils ne trouvaient pas jusque-là pour aller vers un traitement. Est-ce que ça aussi ça fait partie des rôles finalement que la pop culture s'est trouvé?
Effectivement, alors on va se dire que plus il y aura une visibilité des troubles psychiques et une visibilité positive, plus ce sera facile de consulter, ce qui pour l'instant aujourd'hui n'est pas encore tout à fait aisé. C'est un médium qu'on utilise aussi à l'hôpital, par exemple dans le groupe de psychoéducation qu'on a créé à l'hôpital Saint-Antoine, où par exemple on utilise un film comme support pour les patients, pour les aider à reconnaître certains symptômes, se les approprier et puis voir si le film justement pourrait être un outil pour eux de déstigmatisation auprès de leur entourage. Donc on va utiliser un film par exemple comme Happiness Therapy. Donc on voit qu'effectivement ça peut être un outil. Après, il ne faut pas non plus trop simplifier les choses. C'est sûr que ce n'est pas uniquement un film qui va faire que quelqu'un va consulter ou ne pas consulter. Par contre, si on avait, c'est vrai, des représentations quand même plus positives et que l'image du psychiatre, par exemple, dans les films, n'était pas systématiquement celui de quelqu'un un peu dérangé, le cliché de plus malade que ses patients ou un peu sadique, c'est sûr que les patients, quand ils arrivent en consultation, ils ont malheureusement quand même, pour un certain nombre, ces idées reçues qui viennent de films, pour le coup, qui sont quand même un peu plus datés.
Ça vous est déjà arrivé d'avoir des patients ou des patientes qui viennent vous voir en vous disant bah, « En découvrant telle œuvre, en lisant tel livre, en voyant tel film, je me suis rendu compte que je traversais peut-être un épisode de détresse du point de vue de la santé mentale. Je me suis reconnu. » Ça vous est déjà arrivé ?
Alors, ce n'est pas arrivé de manière aussi directe. C'est déjà arrivé, pour le coup, que des patients viennent à la consultation suite à une intervention dans les médias sur un sujet. Je pense notamment à des maladies un peu plus rares, comme la maladie de Pica, un moment par rapport au film Swallow, où ça a permis à des personnes de consulter, ce qui quand même n'est pas rien et qui montre qu'il y a quand même vraiment un vrai impact. Après, en consultation, moi, ça va plutôt être dans un deuxième temps, ou des patients déjà suivis à qui j'ai annoncé un diagnostic, un suivi, etc., qui me demandent des références de films, par exemple, comme support pour en parler à leur entourage ou pour essayer de mieux comprendre, pour essayer de mieux reconnaître leurs symptômes, se dire que ce n'est pas uniquement dans leur tête, qu'ils ne sont pas seuls, que ce n'est pas du cinéma, sans mauvais jeu de mots. Mais finalement, grâce à ces œuvres-là, arrivent finalement à progresser aussi dans leur connaissance vis-à-vis du trouble. Avec, bien entendu, l'idée aucun film représentera exactement ce que un être humain vit, et heureusement. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire un support et de dire bah, « ça, oui, ça, je trouve ça réaliste, ça, ça l'est moins, ça, ça me concerne, ça, ça ne me concerne pas ». Il ne s'agit pas, bien entendu, de se dire que ce sera exactement comme ce que les patients vivent, parce que là, sinon, effectivement, ça marche moins bien également.
C'est quoi votre film préféré sur la santé mentale ?
Alors ça, c'est vraiment une question difficile. Bah, dans les films qui m'ont le plus marqué récemment, enfin, on va dire dans les 5 dernières années, c'est probablement le film de Noé Mulowski, « Demain et tous les autres jours », qui est un film extrêmement juste sur une maman atteinte de schizophrénie, même si le diagnostic n'est pas explicité, et qui, pour le coup, est un des tableaux les plus justes que j'ai pu voir à propos de la schizophrénie, loin justement de l'image du serial killer, loin de l'image de la personne pour laquelle on ressent pas du tout d'empathie. On voit que c'est une mère qui a un trouble qui l'empêche de faire ce que elle souhaiterait ou ce que la société souhaiterait qu'elle fasse et qui gère ça, qui deal ça. Et j'ai trouvé ce regard vraiment extrêmement touchant. Donc, je pense que c'est un des plus, peut-être un des plus surprenants aussi. Et puis, pour le coup, il y en a énormément. Et maintenant, il y a même un ciné-club Culture Pop et Psy où chaque mois, on découvre justement un film au cinéma Le Brady avec un décodage et un débat, surtout une discussion autour de la maladie psychique.
Et la santé mentale, ce sera également le sujet qui nous occupera toute la semaine prochaine avec notre série que je vous invite à découvrir dès le 26 janvier. Merci à Jean-Victor Blanc pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un épisode hors série.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.